Lille, Côte d'Ivoire. C'est bien sûr à suivre sur l'antenne Afrique d'RFI.
Micro-méga.
Caroline Lachowski.
Micro-méga suite, et vous aussi, vous avez le droit de bâiller, c'est contagieux. Et c'est aussi un très sérieux sujet d'étude et le thème d'un colloque international qui réunira la semaine prochaine à Paris d'éminents chercheurs, neurologues, éthologues, spécialistes du cerveau venus du monde entier pour comprendre pourquoi presque tous les êtres vivants sur Terre bâillent quand ils ont faim, sommeil ou envie de faire l'amour. Les mystères du bâillement.
Micro-méga.
Olivier Waluzinski, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes l'auteur de la première somme du premier livre scientifique écrit sur le bâillement et à l'origine de la première conférence internationale sur le bâillement. Alors, première question, évidemment. Pourquoi vous intéressez-vous comme ça, scientifiquement, au bâillement?
Moi, je suis un petit peu une exception, en le sens que je suis médecin de campagne dans le Perche, à 150 km à l'ouest de Paris. Et il y a bien longtemps, ça fait 32 ans, j'ai eu un consultant, un homme d'une trentaine d'années, qui est venu me voir parce qu'il bâillait sans arrêt. C'est-à-dire qu'environ une fois par minute, en face de moi, il bâillait et il venait me voir pour que je le soulage.
Parce que ça le handicapait dans sa vie.
Terriblement, social et personnel, puis il voulait savoir la cause. Or, moi, pendant mes études, on n'en avait jamais parlé. Je pense que les étudiants en médecine d'aujourd'hui n'en entendent toujours jamais parler. Je ne savais absolument rien sur le sujet. J'ai été très mauvais. À l'époque, il n'y avait pas de spécialiste de neurologie dans mon département. Je lui ai dit d'aller à Paris. Il n'y est sans doute jamais allé. Je n'ai jamais eu de suite, jamais de nouvelles. Je ne sais pas ce qu'il est devenu.
Et vous en pensez quoi, là, comme ça, rétrospectivement? Alors,
je pense
de ces bâillements répétitifs?
Il pouvait avoir une maladie, une tumeur cérébrale ou endocrinienne, peut-être grave. En tout cas, je suis passé à côté, mais j'ai été vexé dans mon fort intérieur de ne rien savoir. J'en ai parlé un petit peu à un ami qui est le professeur Lioncan à la Salpêtrière, qui m'a donné des pistes pour trouver des documents à la bibliothèque. J'ai comme ça commencé à fouiner un petit peu. À l'époque, il n'y avait pas encore d'informatique et les recherches se faisaient avec des petites fiches en papier. Ça prenait beaucoup.
Quand même eu déjà des études sur le bâillement.
Enfin, il y avait quelques articles, dont un neurologue qui datait de 1957, qui s'appelait Jacques Barbizet, qui avait fait déjà une petite compilation à l'époque. Mais en fait, il y a eu très peu de choses, puisqu'en France, toute faculté de médecine confondue, il n'y a eu que 3 thèses en un siècle, au XXe siècle, consacrées au bâillement. Et 2 sont uniquement du côté stomatologique. Et une des conséquences du bâillement est d'entraîner des luxations de la mâchoire et ne parler du bâillement que par l'incidence de donner des luxations de la mâchoire. Et la seule vraie thèse date de 1901 d'un médecin qui a fait une carrière de médecin militaire en Afrique, qui s'appelait René Trottmann, mais sa thèse s'appelait le bâillement. Et c'est une excellente thèse avec de l'historique qui remonte très très loin jusqu'à Hippocrate et toutes les conceptions qui étaient encore envisagées au 19e siècle en fait.
Alors, votre livre que vous avez publié, c'est un ouvrage scientifique, hein, uniquement en anglais, qui s'appelle The Mystery of Yawning in Physiology and Disease, publié par les éditions suisses Karger. Vous dites le mystère du bâillement, c'est un grand mystère finalement.
C'est un petit peu comme d'autres fonctions, comme le sommeil, qui regarde beaucoup de mystères. Pourquoi dormons-nous? Pourquoi bâillons-nous? Nous avons des pistes, mais il y a encore des hypothèses différentes. La dernière en date soulevée par des Américains serait une hypothétique action de refroidissement du cerveau, auquel je ne crois pas du tout personnellement. Mais moi, j'ai d'autres pistes, comme de modifier la circulation du liquide céphalo-rachidien par les différentes pressions que le bâillement exerce par son activité musculaire. La théorie la plus généralement admise à l'heure qu'il est, c'est d'avoir une stimulation de la vigilance, non pas de l'éveil, mais de la vigilance.
Alors qu'en fait, bizarrement, nous, on se dit, on baille quand on est fatigué, mais
oui,
ce serait justement pour se réveiller.
Oui, c'est pour lutter contre la pression du sommeil. Mais pendant des siècles, et encore, on voit encore des choses qui sortir à notre époque, qu'il faut vraiment bannir des esprits, ça n'oxygène pas le cerveau. Ça a été mesuré par des mesures de gaz du sang, par des gaz expirés. Et quand on réfléchit que le bâillement existe chez le fœtus, qui est quand même dans un milieu liquidien, ça existe chez les poissons qui vivent dans l'eau. Donc ils ne respirent pas en inhalant de l'air. Donc on ne peut pas envisager qu'on oxygène son cerveau. D'autre part, le bâillement, c'est une ample inspiration. Mais il y a quelques instants d'apnée, d'arrêt de la respiration, puis une expiration. Et quand on a besoin de beaucoup d'oxygène, comme quand on est un marathonien qui court, eh ben on ne bâille pas à chaque foulée. C'est pas une façon d'améliorer l'oxygénation.
Docteur Valuzinski, votre premier constat par rapport au bâillement, vous venez de le dire d'ailleurs, c'est que tout le monde bâille. Le bâillement est universel, vous dites, chez tous les vertébrés.
Tous les vertébrés n'ont pas forcément étudié scientifiquement. Il y a des exceptions identifiées actuellement, comme la girafe,
comme les
cétacés. Comme les dauphins.
C'est-à-dire les dauphins, les baleines.
C'est-à-dire des animaux, pour ces animaux aquatiques, qui ont un sommeil très particulier, puisqu'ils ne dorment qu'un hémisphère à la fois. Et qu'ils ont une respiration qui est volontaire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dormir, sans ça ils se mettent en apnée, ils meurent. Donc ils sont toujours éveillés, ils ferment un œil, ils dorment d'un hémisphère, et après ils dorment d'un autre hémisphère.
Alors ces animaux-là ne baillent
pas.
On
ne les a jamais vus, mais bon, c'est très difficile à observer pour des animaux marins sur la durée, puisque le bâillement, il n'est pas en permanence. Et puis, il y a un Américain qui avait mis ses étudiants, ça date des années 80, dans un zoo pendant plusieurs jours, se relayant 24 heures sur 24, et on n'a jamais constaté de bâillement chez la girafe. La girafe, c'est un métabolisme très particulier à cause de son grand cou, à cause d'un sommeil très particulier qui dure de 3 à 4 minutes à la fois, et qui n'est pas bien connu actuellement, de savoir s'il y a du sommeil paradoxal, du sommeil profond, on ne le sait pas. Mais la girafe, c'est un animal fantastique parce qu'il y a un métabolisme qui est différent de tous les autres vertébrés.
Et la girafe ne baille pas alors que tous
les autres animaux baillent. Les reptiles, c'est-à-dire les animaux poéquilothermes qui ne régulent pas leur température corporelle, baillent. Tous les homéothermes baillent. Et la fréquence varie suivant que vous êtes carnivore ou herbivore.
Qui est-ce qui baille le plus ?
Évidemment les carnivores. Parce que quand vous êtes carnivore, vous avez une ration alimentaire extrêmement riche que vous ingérez de façon rapide et vous avez un luxe de sommeil. Et comme vous êtes un prédateur, vous avez peu de chances de vous faire manger, donc vous pouvez dormir tranquillement. Quand vous êtes un herbivore, vous mangez de l'herbe qui a un apport calorique faible, il faut en manger beaucoup, ça prend beaucoup de temps, vous risquez de vous faire manger par un autre animal et vous dormez très peu. Donc les herbivores baillent moins que les carnivores. Et puis les fructivores, c'est-à-dire par exemple les singes, baillent à peu près comme les carnivores.
Et alors chez les hommes, vous l'avez dit Olivier Valuzinski, chez les hommes le bâillement ça commence au tout début de la vie, c'est-à-dire que le bâillement fœtal, ça existe.
Tout à fait, mais ça c'est une loi qui remonte déjà identifiée par Darwin, c'est-à-dire que plus vous avez un animal qui est phylogénétiquement ancien, comme les reptiles, plus vous retrouvez des comportements comparables ontogéniquement précoces, c'est-à-dire précoces au cours du développement.
C'est-à-dire que les reptiles baillent, donc les petits d'hommes dans le ventre déjà doivent bailler.
Dans notre cerveau reptilien que nous avons toujours, c'est-à-dire notre tronc cérébral, nous avons des fonctions automatiques de survie comme la respiration, la déglutition.
Et le bâillement alors ?
Le bâillement intervient et commandé dans les mêmes structures du tronc cérébral et du diencéphale que chez les reptiles. Par contre, quand on monte dans les classes phylogénétiques, comme par exemple chez les singes, les primates, on a des bâillements de vie en groupe, de menaces ou liées à la sexualité de ces animaux qu'on ne retrouve pas chez d'autres vertébrés phylogénétiquement plus anciens comme les reptiles. Et puis il y a ce phénomène très curieux qu'on appelle avec un vilain mot la contagion du bâillement qui est le propre des primates humains et de quelques autres primates. Peut-être quelques chiens bien dressés, mais en tout cas qui nécessitent d'avoir un cortex et un lobe frontal pour être capable de se reproduire, de se transmettre d'un homme à un homme.
Alors on va y revenir là-dessus, mais ce que vous appelez le bâillement contagieux, c'est que si là moi je baille, vous risquez de bâiller aussi.
Et puis même nos auditeurs à nous écouter vont probablement bâiller, puisque le fait de lire quelque chose sur le bâillement...
ça fait bâiller.
Voilà, et d'entendre parler du bâillement peut faire bâiller.
Oh.
Alors, je vous propose d'écouter le célèbre éthologue que vous connaissez d'ailleurs, Franz De Waal, qui est spécialiste des primates, qui est également psychologue, qui travaille sur l'empathie et qui a effectivement constaté le bâillement chez ceux qui l'étudient, les primates, les grands singes. On l'écoute.
Le bâillement, c'est quelque chose qu'on peut tester. Et on a fait ça. On a développé des animations. Alors, on montre le chimpanzé, pas un vrai chimpanzé, on leur montre une animation d'un chimpanzé qui est en train de bâiller. Et les chimpanzés réagissent à bâiller aussi.
Donc, uniquement sur une image. Hein.
Oui, oui. Ils font ça aussi avec de vrais chimpanzés. On a testé ça aussi avec des chiens. Les chiens font aussi. Une personne qui connaissent bâille, eux, ils bâillent aussi. Toujours, l'empathie est plus facile avec des gens qu'on connaît. Et le bâillement, c'est aussi intéressant que, par exemple, les enfants autistes, ils n'ont pas cette bâillement. De contagion de bâillement, ils n'ont pas ça. Ça veut dire qu'ils ont un problème avec l'empathie très profonde. Et les enfants normaux, bien sûr, à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils commencent à avoir le contagion de bâillement.
Votre réaction, Olivier Waluzinski, à ces propos du célèbre éthologue Franz De Waal, donc le bâillement, c'est contagieux chez les grands singes et pas chez les autistes?
Alors, en fait, il faut déjà avoir une hygiène du langage, je trouve, parce qu'il ne s'agit pas réellement d'une contagion. Nous ne transmettons aucun microbe, aucun virus.
En bâillant.
En bâillant. Ce n'est pas réellement une imitation, parce qu'il y a souvent un décalage dans le temps. C'est pas strictement la même chose. C'est le bâillement de chacun propre. Mais c'est un bâillement déclenché par le bâillement d'un autre. Même les aveugles sont sensibles, donc c'est pas seulement la vue, c'est tout un mécanisme avec l'audition également et le bruit que fait le bâillement. Alors, toutes les enquêtes de psychologie avec des échelles montrent que tout le monde n'est pas sensible de la même façon. Sur mon site internet, il y a un questionnaire et avec près de 2000 réponses, il y a toujours cette fréquence de 75% de la population qui est sensible au bâillement des autres et à peu près 25% qui ne l'est pas ou très peu. Et on retrouve dans les études de structure de personnalité entre les gens qui ont une structure qu'on appelle schizoïde, c'est-à-dire repliée sur eux-mêmes et assez indifférents aux autres, qu'on retrouve par exemple dans la maladie qui s'appelle l'alexithymie, la capacité à lire les émotions des autres. C'est souvent le cas des chefs militaires et des patrons qui ont cette qualité pour diriger et commander, mais qui sont peu sensibles aux émotions des autres. Par contre, si vous êtes très sensible à la douleur d'autrui, si vous êtes apte à décoder, même sans parole, ce que ressent l'autre, rien qu'à regarder son visage, vous êtes très sensible au bâillement de l'autre. Et ça s'explique par des mécanismes neurophysiologiques. Il y a une découverte très importante qui, à mon avis, mériterait le prix Nobel, mais les Italiens qui l'ont faite ne l'ont pas eu. C'est Risolati et Galèze à Parme qui, en 1996, ont décrit ce qui s'appelle des neurones miroirs. Dans la question de l'intentionnalité et de la motricité. C'est-à-dire quand vous regardez un animal faire quelque chose, enfin, ou un être humain, vous activez dans les régions de la motricité de votre cerveau les mêmes structures que celles qui vous permettent de faire exactement ce geste que vous ne faites pas, mais qui vous permettent de comprendre ce que l'autre veut faire. Il y a la compréhension de l'intentionnalité du geste de l'autre, mais depuis ont été découvertes dans d'autres structures, non pas dans les structures de la motricité, mais dans les structures du décodage des émotions, en particulier dans le lobe droit, dans les zones pariétotemporales, dans le précuneus, dans l'insula, dans l'amygdale, des structures qui s'animent quand on perçoit l'émotion des autres et qui nous permettent d'avoir un ressenti, de comprendre la peine, le chagrin, la joie, le bonheur d'un autre. Dans l'imagerie fonctionnelle cérébrale qui se pratique maintenant, on retrouve l'activation de ces mêmes zones quand on voit quelqu'un bâiller que quand on perçoit l'émotion d'un autre.
Micro-méga sur RFI, nous sommes avec Olivier Waluzinski et jusqu'à présent, moi je croyais que Je bâillais, sans même y penser d'ailleurs, quand j'étais fatiguée, peut-être quand j'avais faim aussi. Et je suis en train de découvrir avec vous, Olivier Waluzinski, que le bâillement, c'est un vrai mystère, mais c'est assez extraordinaire, que ça nous entraîne jusqu'aux neurones miroirs. Oui. Et aussi, alors là je crois que c'est plutôt du côté de chez les grands singes, à des questions qui ont trait à la sexualité.
Le bâillement est associé à trois fondements de la vie. Nous sommes soumis à la rotation de la Terre, à l'alternance du jour et de la nuit, et nous avons une obligation imposée par la nature. Et notre cerveau a besoin de dormir, c'est lui qui commande le sommeil, c'est fait pour lui et c'est fait par lui. Et associé à ce rythme veille-sommeil, il y a le bâillement qui intervient dans les zones transitionnelles, c'est-à-dire à l'approche du sommeil ou au sortir du sommeil. Et associé à un développement complet d'étirement du tronc et des membres, ce qui a le joli nom de pendiculation. Ensuite, nous avons tous connu le fait d'être en fin de matinée, en n'ayant pas assez déjeuné au petit déjeuner, et d'avoir une fringale. Il y a des bâillements associés au jeûne, et c'est un bon signe pour le diabétique à l'insuline qui va le faire une hypoglycémie quand il commence à avoir des sueurs et qu'il se met à bâiller. Et l'inverse, quand vous avez fait un gros repas, en particulier s'il est un peu alcoolisé, en sortant de table, vous avez de la somnolence et des bâillements. Et puis, il y a des cris dans le monde animal, et en particulier chez certains singes comme les macaques et chez certaines espèces de rats, un bâillement associé à la sexualité, qui est une forme de communication non verbale qui est le propre du mâle dominant d'animaux qui vivent en groupes sociaux.
C'est-à-dire que c'est le mâle dominant qui bâille pour appeler les femelles
C'est pas pour appeler, mais il bâille juste avant l'accouplement et après l'accouplement, comme s'il voulait préciser son statut de dominant. Il a d'autre part des canines qui sont beaucoup plus longues que les non-dominants. Et il y a des expériences qui ont été faites de castration dans ces circonstances. Et le mâle perd sa capacité d'être dominant et voit ses bâillements disparaître. Et si on lui réinjecte de la testostérone, il peut retrouver son statut de dominant et il se remet à bâiller au moment de l'accouplement. Alors, dans l'espèce humaine, c'est un peu différent puisqu'il y a la même fréquence des bâillements chez l'homme et la femme. Mais il y a un psychologue néerlandais, Walter Sundgens, qui a fait sa thèse en 2004 pour montrer qu'il existait des bâillements dans la sexualité féminine. Et effectivement, la progestérone, que connaissent bien les dames parce qu'il y en a beaucoup en début de grossesse, elles ont toutes remarqué qu'elles avaient une somnolence importante en début de grossesse et qu'elles bâillaient beaucoup. Et donc, c'est cette forme de bâillement qui est associée à la sexualité féminine. Donc, messieurs qui nous écoutez, si votre épouse bâille, prenez-en grand compte, c'est qu'elle désire une relation charnelle.
Mais maintenant qu'on vous a entendu, Olivier Waluzinski, on n'osera plus jamais bâiller en public, là.
Ah, au contraire, il ne faut pas se retenir. C'est un besoin physiologique. On fait ça environ 240 000 fois dans une vie.
240 000 fois dans une vie.
Oui, on bâille de 5 à 10 fois par jour et il ne faut pas se retenir. Donc, on a ces bâillements le matin, les bâillements liés à la sexualité, les bâillements liés à l'alimentation, c'est-à-dire trois fondements de la vie. L'éveil et le sommeil, la satiété et la faim, c'est-à-dire manger et se reproduire, ce qui est quand même philosophiquement très intéressant.
Espérer alors de ces rencontres qui vont avoir lieu entre chercheurs qui travaillent dans plein de domaines et dans le monde entier autour
du
bâillement.
C'est déjà un exploit de permettre en un lieu unique de rencontrer des Mexicains, des Anglais, des Américains, des Italiens, des Hindous, des Japonais. Ça n'a jamais été fait. Or, c'est une part de neurosciences comme d'autres domaines qui est à la frontière de la psychologie, de l'éthologie, qui est très intéressant d'un point de vue de la neuropharmacologie. Et puis, il y a quand même tout un pan de pathologie, puisque le bâillement est un comportement physiologique, et comme toute chose physiologique, il a sa pathologie.
C'est-à-dire des gens qui bâillent trop, ou bien au contraire des symptômes de maladie.
Et encore quelque chose de plus extraordinaire qui n'existe à ma connaissance que dans le bâillement, c'est que le bâillement peut avoir sa pathologie, mais il peut en même temps déclencher des pathologies ou guérir des pathologies.
Qu'est-ce qui guérit le bâillement ?
Quand vous prenez l'avion et que le pilote descend un peu trop vite, vous avez une surdité parce que vous avez des différences de pression dans votre oreille, et grâce au bâillement, vous ouvrez la trompe d'Eustache, ce qui fait que vous entendez brièvement un petit peu moins, mais vous rétablissez vos pressions et votre audition revient tout de suite après le bâillement. Vous pouvez aussi, dans certains cas, quand vous faites de la plongée sous-marine, dans des décompressions trop rapides, vous pouvez avoir des paralysies faciales par des œdèmes du nerf facial au moment de la remontée, si vous êtes remonté trop vite, et en bâillant, on réduit les pressions et on fait régresser les paralysies faciales qui apparaissent dans ces moments-là. Et puis, toutes les personnes qui s'intéressent à la relaxation, au yoga, les professeurs de yoga s'intéressent au bâillement, puisque c'est une manière d'avoir une perception de son corps, ce qu'on appelle l'interoception, le sixième sens qu'Aristote avait oublié de citer, et d'avoir une acutisation de la perception de notre corps et de nos sensations. On a un petit peu comme une tour de contrôle qui permet de percevoir toutes ces sensations corporelles avec une sensation brève, mais une sensation de bien-être qui est très proche de l'orgasme au point de vue sexuel. Un bon bâillement bien fait, involontaire, fait plaisir et fait du bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas se retenir, et c'est pour ça que toutes les personnes du genre kiné, yogi et autres qui sont là pour aider à se retrouver en forme, à détendre des gens tendus, crispés, connaissent le bâillement, essayent de le déclencher, parce qu'on peut, par des techniques de ventilation rapide et un certain nombre de techniques corporelles, se déclencher soi-même des bâillements. On fait de amples inspirations plusieurs fois de suite en se concentrant sur ça, et dans un certain nombre de cas, on va déclencher un bâillement. Donc le bâillement, ça permet un certain nombre de perceptions de son corps et de ses états.
Donc finalement, ça permet de se recentrer sur soi.
Exactement.
Et l'autre qui se trouve en face de vous peut aussi se recentrer.
Et comme vous l'avez remarqué, pendant le bâillement, pendant un bref instant, par le fait de l'obstruction des trompes de Sage et autres, vous êtes un petit peu déconnecté du monde environnant. Et vous n'avez plus que les perceptions de votre propre corps et un sentiment de bien-être.
Donc, ça va peut-être être notre conclusion, finalement, ça fait du bien de bâiller, c'est bien pour la recherche, il ne faut pas se retenir, et il faut que les chercheurs ne se retiennent pas de chercher, voilà, de percer le mystère du bâillement.
Tout à fait.
Merci beaucoup Olivier Waluzinski. Alors je rappelle le titre de votre livre scientifique disponible en anglais chez l'éditeur suisse Kruger, The Mystery of Yawning in Physiology and Disease, publié donc aux éditions Carguer. Et puis ce 24 et 25 juin, le premier congrès international à Paris sur le bâillement avec des spécialistes du monde entier.
Et puis mon site internet bâillement.com où il y a plus de 1000 pages entièrement consacrées au bâillement.
Vous retrouverez, chers auditeurs, le lien sur notre page internet dans Micro-Méga. Merci.
Histoire de science. Jean-Yves Casga.
Jean-Yves Casga.
Bonjour Caroline.
Ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire de science dont vous avez le secret. Alors aujourd'hui, il s'agit, de la face cachée d'un grand chercheur.
Ah, très cachée, oui, vous ne vous en doutiez certainement pas. Le pape de la physique, le roi de la chimie, le père fondateur de la science expérimentale, la bonne, la vraie, bien de chez nous, Sir Isaac Newton lui-même, vous savez, l'homme de la pomme qui tombe sur la tête et qui suggère les lois de la gravitation, Isaac Newton était un alchimiste. Dur dur pour les ayatollahs de la raison sur des pensées réputées fausses, on pourrait donc faire des découvertes authentiques. Bref, un Newton extrêmement troublant qui a quand même consacré dans son œuvre 1 200 000 mots à l'alchimie quand il en consacrait 200 000 de moins à la théologie. Tellement dérangeant pour une certaine idée que d'aucuns se font de la science qu'on a cherché à minimiser cet étrange intérêt quand on ne cherche pas tout simplement à le passer à la trappe de l'histoire. En fait, on a commencé par accuser Newton d'occultisme, de recours à des forces inavouables. Comment croire, c'est vrai, que deux masses, la Terre et la Lune par exemple, pouvaient s'attirer à distance? C'était louche. Et puis cela devint vrai. Alors, on regretta l'intérêt de Newton pour l'alchimie. Et ceux qui n'avaient jamais rien cherché, et donc jamais rien trouvé, prirent leur plus docte plume pour expliquer au grand public, ah le sacré talent des vulgarisateurs, que plus d'une fois, Newton avait quitté le domaine de la science pure pour celui de la fantaisie et de l'imagination. Hélas, trois fois hélas, Newton, non content d'être mort d'une intoxication due à la manipulation du plomb qu'il cherchait à transformer en or, et oui, c'est ça l'alchimie, Newton avait aussi laissé des écrits incontournables dans lesquels on voit bien qu'il mettait exactement sur le même plan ses propres connaissances chimiques et les récits alchimiques ou mythologiques. Pour lui, la connaissance est une, et il faut donc réconcilier toutes ces formulations, y compris celles des anciens, qui en savaient au moins autant que nous. En fait, et c'est ce qui peut-être gêne le plus notre conception de la science, pour Newton, l'univers est une énigme que l'on ne peut déchiffrer qu'à l'aide de clés ésotériques. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'il faille vérifier tout ce que l'on croit découvrir par l'observation et l'expérimentation. Et si pour lui tout se passe comme s'il n'avait jamais rien trouvé, mais toujours vérifié ce qu'il savait déjà, c'est peut-être parce qu'il était, dans l'histoire des sciences, le dernier des magiciens, le dernier grand esprit, comme disait l'économiste John Keynes, à avoir regardé le monde visible et intellectuel avec les mêmes yeux que ceux qui avaient commencé, il y a un peu moins de 10 000 ans, à constituer notre patrimoine intellectuel. Ce qui, à l'évidence, d'ailleurs, n'était pas une démarche tout à fait folle.
On vous reconnaît bien là, Jean-Yves Casga, et soulignons que dans Micro-Méga, on avait reçu l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, qui effectivement ne cachait pas du tout cet aspect-là de Newton dans sa biographie. À bientôt, Jean-Yves. Dans 15 jours, on se retrouve pour une nouvelle histoire de science.
Yes, it is.
Micro-Méga, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Eva Moschinski était à la réalisation avec Hélène Avril à la technique. La semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous avec Cécile Bonici pour de nouvelles aventures scientifiques et humaines. D'ici là, portez-vous bien. Dans quelques instants, vous retrouvez les informations sur la Radio Mondiale.